Mesdames, Messieurs.
Quel genre d'histoire?
Des histoires.
Et après?
537 représentations.
La vie est romance.
Aujourd'hui, 25e émission d'Indiscipline, j'ai le plaisir de recevoir un collectif d'artistes Martégal, et évidemment, vous l'avez bien compris, pluridisciplinaire. Il s'agit d'autres et pareils. Et autour de cette table, pour évoquer les activités de ce collectif, j'accueille Olivier Domergue, Brigitte Palagi, Jean-Marc Pontier, qui est accompagné de Mathilde Pontier-Guillaume. Et puis tout à l'heure, au cours de cette émission, on aura aussi le plaisir de rencontrer d'autres membres de ce collectif. On aura notamment le plaisir d'écouter quelques routines des textes dits par Nicolas Tardy. Et puis une performance dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure avec Brigitte Palagi, une performance à l'espace culture, une performance qui est intitulée « De chaises et d'autres ». Et puis on aura aussi l'occasion d'une rencontre via le téléphone avec Jules Vipaldo. Mais tout de suite, peut-être pour retracer le parcours de ce collectif d'artistes autres et pareils, Olivier Domergue, un des membres fondateurs de cette association, à quel moment est né ce projet, Olivier?
Alors, il y a une date historique officielle qui est 1991, date de l'enregistrement à la préfecture des Bouches-du-Rhône de l'association, mais en fait on a commencé vraiment le groupe à travailler en 1986, si ma mémoire est bonne, autour d'un un festival de jazz qui était dans un petit village du Var, avec une expo de peinture d'ailleurs de Jean-Marc Pontier. Et puis on a continué par diverses choses autour du théâtre, de la bande dessinée et déjà d'expos art plastique, pour arriver donc à cette date fatidique de 1991 où l'association est née un jour à Septem ou un soir à Septem autour de 5-6 personnes qui étaient donc des artistes, photographes, plasticiens, écrivains et qui ont décidé de travailler ensemble.
Est-ce que vous aviez d'emblée, dès la fondation de ce collectif, l'idée qu'il devait être pluridisciplinaire ou bien est-ce que cette transversalité s'est développée petit à petit au fur et à mesure des rencontres?
Alors il était pluridisciplinaire de fait, hein, puisqu'on venait tous de domaines différents et qu'on avait envie de poursuivre des travaux qu'on faisait les uns avec les autres et de leur donner un peu plus d'écho. Alors ça, c'était une première partie de l'activité d'autres et pareils. Et puis évidemment, au fil du temps, se sont développées des parties éditoriales, des parties de lecture publique, etc., qui sont venues étayer, renforcer la chose. Mais ce que j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure on a dit association Martégal, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec la chose, avec la définition ou la restriction de Martégal.
Puisque précise.
On a une antenne aussi dans le Var, qui est d'ailleurs dirigée par Jean-Marc. Et puis, c'est une association qui a une vocation, pour dire vite, mais qui travaille sur France entière et qui a des artistes sur France entière. Voilà.
Ça signifie que vous n'avez pas envie d'être localisé quelque part. Vous voulez vraiment essayer le plus largement possible.
Et surtout pas à Martigues, bien qu'on fasse là-bas, au départ, souvent nos plus belles réalisations et qu'ensuite on voyage avec. Mais Martigues, ça a été un petit accident pour nous, un accident de parcours.
Un aspect évidemment saillant de la production d'autres et pareils, c'est l'aspect littéraire. Tu peux peut-être en dire quelques mots et notamment au passage évoquer ton propre travail, Olivier.
Alors, je vais prendre un deuxième contre-pied. J'adore digresser et partir sur autre chose. Donc en fait,
ici, tu as tout à fait le droit.
Je comprends. Parce qu'en fait, je n'ai pas les idées très claires, donc je vais revenir incessamment sur la question antérieure et donc répondre systématiquement à côté des questions.
Vas-y.
Bon, donc en fait, ça a été d'abord donc un travail autour d'expositions pluridisciplinaires donc, qui ont commencé dans les années 90 et avant tout, uniquement ça, c'est-à-dire une exposition donner lieu à une manifestation ou participer à un collectif d'artistes. Et il y avait, dans ce cadre-là, des lectures, de la musique, etc. Donc après est arrivée l'envie de créer une revue qui s'appelle Autres et Pareils, la revue, et qui existe toujours, qui est une revue semestrielle, qui rend compte des activités de l'association, qui peut être un numéro tout à fait minimaliste sur un artiste ou un écrivain qu'on souhaite faire connaître, et qui peut être aussi un numéro sur une des réalisations de l'année.
Une revue très polymorphe, hein, voilà. Puisqu'elle peut être aussi bien écrite que sonore, enfin prendre diverses formes.
Voilà, c'est ce qu'on voulait, quelque chose d'assez ouvert, qui soit sur des supports différents, qui ait des formes différentes. Et donc on a par exemple là en projet une grosse monographie dont on reparlera plus tard, mais on a eu comme ça des catalogues d'exposition, Couleur bord de mer, qui était un travail qui avait été fait dans le Var, et puis également un travail qui a été fait au Muséum et au Centre de Poésie à Marseille en 2002, qui s'appelle Comment et pourquoi des portraits de carton, scotch, papier ficelle, etc., autour de l'œuvre de Patrick Sainton et des écrivains qui l'accompagnaient à l'époque. Voilà. Donc une revue qui rend compte en fait des activités de l'association, ça peut être parfois un programme de manifestation générale, parce que l'association se décline aussi en manifestation de type poésie à tous les étages, donc ça c'est quelque chose qui a lieu à peu près tous les 2 ans, donc on en est au troisième numéro.
C'est une manifestation publique ?
Alors publique, donc avec mettons une dizaine de lectures ou une quinzaine de lectures articulées sur des expositions dans une dizaine de villes sur PACA ou hors PACA. Donc c'était le cas en 2005, c'était le cas aussi en 2001, qui alterne parfois avec une manifestation qui s'appelle Poésie Espace Public, qui est plus spécifiquement tournée vers l'affiche du Bleu du Ciel, qui est une association avec qui on travaille en partenariat, et toujours dans une idée d'exposition, de croisement des pratiques, et évidemment de lecture publique, puisqu'on pense que la littérature contemporaine passe avant tout par la lecture. Donc j'en viens du coup au point de la question qui était posée il y a 25 minutes, qui était quid de la partie littéraire de l'association, donc cette activité éditoriale qui s'appelle les éditions Contre-Pied et qui a commencé donc en 1994, pour être précis, et autour de petits livres reprographiés qui étaient des livres qui ont été diffusés gratuitement pendant une dizaine d'années. Et dans lequel on a publié des premiers textes de, par exemple, Dominique Méhens, Michel Crozatier, Nathalie Quintane ou d'autres. Je ne vais pas tous les citer.
Combien de participants, pour justement éviter de citer tout le monde, mais donner un ordre d'idée, combien de participants à peu près ?
Il y a à peu près 3 livres par an, donc ça fait à peu près 34-35 livres aujourd'hui. Le prochain est un texte de Patrick Beurard-Valdois. Et il y a un collectif d'une soixantaine d'artistes tout confondus. Hein ? Alors, j'ai envie de dire aussi que ce n'est pas qu'un collectif d'artistes, puisque c'est une association qui a une vie réelle avec des adhérents, etc., et qui a des adhérents depuis de longues dates, puisqu'on a travaillé pendant une dizaine d'années sans aucune subvention et uniquement avec le bon vouloir et les adhésions d'une à peu près de 100-150 personnes qui nous sont fidèles depuis le départ, avec qui on a pu faire des choses et réaliser les objectifs qui étaient évidemment beaucoup plus restreints qu'aujourd'hui, hein, puisque l'association depuis 4-5 ans a pris une ampleur un peu plus importante, mais qui nous ont permis d'exister en tout cas.
Frappez. Frappez dès demain, frappez à une porte fermée. Si vous croisez un être de rêve, vous rêvez peut-être. Affrontez les créatures de la nuit, des créatures hantent ces lieux. Une fois de plus, un parcours initiatique. Une fois de plus, un fabuleux reportage empreint d'émotion. L'envie d'apprendre progresse avec l'histoire. Une fois de plus, on ne saurait oublier, dissimuler derrière une ombre. On n'en peut plus de toutes ces coïncidences, ne peuvent être le seul fruit du sale hasard. Diverses particules composent une nouvelle interprétation. Demain, un avenir frappera à votre porte. Demain, vous aurez un avenir si vous avez une porte.
Littérature et poésie donc, mais aussi bien d'autres aspects, un aspect musical aussi qui est accueilli au sein de ce collectif d'artistes, quelques musiciens ou musiciennes qui y participent.
Alors oui, donc au départ on avait ouvert très très largement notre éventail en disant c'est formidable, on va faire de très belles choses, des concerts, du théâtre, etc. Et on a gardé quand même une pratique musicale, mais on a laissé tomber le théâtre. assez vite.
Ça va venir.
Voilà. La partie musicale, donc, c'est souvent lors de manifestations, donc l'intrusion forcenée de jazzman hystérique ou une partie chanson française du côté, enfin, qui serait une sorte
chanson
de...
à texte.
Ouais, chanson à texte, mais plutôt avec quand même un fond déconnant. Et voilà. Et donc ces musiciens, donc c'est autour de notamment de Juliette Carion, qui est la chanteuse dont on parlait, et des gens comme Gabriel Enfonso, qui est un guitariste génial niçois, et d'autres. Bon, notre batteur émérite, qui est Jean-Claude, l'homme velu d'ailleurs, et d'autres, donc qui accompagne comme ça le travail associatif et qui le ponctue depuis 15 ans maintenant. Quoi.
Il m'a tapé dans l'œil, ensuite il m'a tapé tout court, mon portefeuille et mon oseille, mon artichaut, son poing dans l'œil, mon blé, son pied sur mes orteils, j'ai dû tomber sur un écueil, il m'a tapé dans l'œil. À l'œil, il m'a tapé, et tout. On dit qu'à l'œil, ce n'est pas cher. On dit, mon cher, tu me tapes dans l'œil. Mais pour faire taire les enchères, question chère, je lui ai dit, mon œil, était-ce une raison pour taper mon pognon? Ça, non. Je lui ai dit, tu as mon beurre noir pour mettre dans tes épinards. Et la bagatelle, mes 100 francs pour améliorer ton pain blanc. Alors il se tira preste sans demander son reste.
Ah bon ?
Il a juste raflé ma monnaie, me laissant morte sur le pavé, l'œil droit quelque peu soupolé et à moitié déshabillé. Tout bien considéré, cela pouvait aller. Merci. Je suis la seule sur le trottoir avec mon œil qui dit bonsoir. Dommage qu'il était si sec. C'était tout de même un beau mec qui m'a tapé dans l'œil et j'emporte le deuil à l'œil.
Voilà, et puis il s'est développé aussi une partie bande dessinée, alors qui était au départ autour d'un de nos acolytes qui s'appelle Jal, qui est aussi un auteur de BD niçois. Et depuis donc un an, Jean-Marc Pontier a souhaité lancer aussi une partie éditoriale bande dessinée, donc ça s'appelle les éditions Iconophage, et je crois qu'il en parlera plus longuement tout à l'heure.
Eh bien, on l'écoute puisqu'on a la chance de l'avoir avec nous sur ce plateau de Grenouille. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Quelques mots à propos de ton travail, peut-être pour dire d'où tu viens. Est-ce que la BD, c'est ce que tu réalises depuis l'enfance ou est-ce que alors, tu es venu des arts plastiques pour ensuite évoluer vers la bande dessinée?
Tout à fait. Alors, avant de te répondre, je vais répondre à l'avant, dernière question et rectifier petite quelque chose parce qu'Olivier, pour ta gouverne, c'est en 85 que nous avons fait la première exposition autour du jazz au Val, pas en 86.
Donc, tout ça ne nous rajeunit pas.
Voilà. Enfin.
C'est parti.
Voilà, donc pour répondre plus directement, effectivement, moi je me considère plutôt comme plasticien au départ, mais de par justement la vocation dont parlait très bien Olivier à l'instant, qui consiste à lancer des passerelles entre les arts au sein de l'association, dès le début d'ailleurs, il nous est apparu comme une évidence qu'on n'allait pas travailler chacun dans notre coin, et on a commencé soit sous forme d'illustration par exemple, j'ai illustrer certains textes poétiques d'Olivier, d'Emmanuel Bayamaktam aussi, qu'on n'a pas encore cité ici, il serait temps, hein, abordage par les créatures en 1991-92. Et puis, tout naturellement, donc, suite à un texte qui m'a été proposé il y a quelques années par Jules Vipaldo qui s'appelle « Le chevalier araigné », est apparue l'évidence de monter une structure éditoriale, une cellule éditoriale. Donc on a appelé Iconophage en hommage à une émission de radio qui a lieu sur Toulon, sur Radioactive, une autre radio associative un peu décalée, et donc faire une petite maison, une petite cellule éditoriale qui sortirait un ou deux volumes par an.
Avec d'autres auteurs, donc, peut-être oui, que oui. Tu peux présenter.
Alors, avec d'autres auteurs, donc, moi-même, parfois, qui illustre donc Vipaldo, par exemple. D'autres projets aussi sont en cours avec Vipaldo. Aussi, Denis de Lapparent, que vous connaissez sur cette radio, je crois, avec ses magnifiques livres qui sont des récits parodiques de romans policiers, en même temps que de romans photos, qui jouent beaucoup sur comment dire, la récupération de l'image, sur le décalage entre le rapport texte-image. Voilà, on travaille beaucoup sur une ambition littéraire quand même, hein, dans cette cellule éditoriale. On a comme ça l'ambition de faire quelque chose entre le roman graphique et la parodie de roman photo.
Il me semble reconnaître que dans ce collectif Autre et Pareil, il y a quelque chose qui me semble un peu commun à l'ensemble des participants. C'est à la fois un très grand sérieux dans le travail, une grande qualité professionnelle, mais en même temps un goût immodéré pour la déconnade. Est-ce que vous partagez ce sentiment tous les uns et les autres ?
Oui, c'est ce qui nous unit, c'est réellement notre lien. Et même si au départ... on ne pensait pas du tout que 15 ans ou 20 ans après, l'association continuerait. Toujours est-il que c'était déjà au départ un lien d'humour plus qu'autre chose.
D'humour et d'amitié, je dirais. Ouais. Parce que je crois que si dans un groupe comme ça, il n'y a que de l'ambition personnelle et des égos démesurés, on ne peut pas aller très loin.
On peut peut-être maintenant, histoire de se mettre un peu la réalité dans les oreilles, vous écoutez, puisque je crois que vous avez préparé une petite performance. Je vais laisser peut-être Olivier présenter ce que vous allez nous donner dans quelques secondes.
Alors, il s'agit d'un texte de Jules Vipaldo qui s'appelle « Rue Saint-Hermentaire » et qui est un hommage, je crois, à Maurice Roche. Et donc, nous allons exécuter maladroitement maintenant.
On l'écoute.
Rue Saint-Hermentaire, premier proverbe.
Version originale.
Il est plus de minuit.
Sous-titres et commentaires.
Lorsque je regagne en belle compagnie.
L'heure s'escrime.
Ma ZX de classe.
Classée X, belle inconnue.
Garée au fond de l'impasse, obscure.
Les voix du charlot sont pénétrantes.
Saint-Hermentaire, mon cher klaxon.
Pouette.
Surprenant par le plus grand des bazars.
Prenant sur le haze
hard
une longueur d'avance.
Par le plus grand des bazars, une scène de rue, une scène de rut dans un véhicule
qui transporte bien son nom.
Oh, transport moderne, dérangeant ses occupants.
Occupés à véhiculer les commodités de la conservation.
De l'espèce.
Très occupés, en pleine bonne mauvaise passe.
Ah, la bourre, toujours la bourre.
Oh, pardon, désolé vraiment de vous avoir interrompute.
Leur coup manqué, sauf qui peut. Ils prennent leurs jambes à leur...
Oui.
Nous ne faisons que passer, mais à Cuba, etc. Elle, constatant, 22, il y a des bourges qui se ramènent.
CQFD, dès que les courges se ramonnent, les bourges se ramènent.
Lui, boutonneux, reboutonnant. Traînant d'une pipe, qu'est-ce qu'il fout de là, ces pecs que non ?
Question que tous se posent, penaud.
Elle, plus entreprenante, passe la marche arrière et recule. Vous connaissez le refrain.
Comment veux-tu ?
Et la musique ?
À main. On se tire ailleurs, dans la panique, elle mélange le propre et le figuré.
Oh, c'est du propre.
Non, c'est du figuré.
Et vers sa vis. Donc, des bandades.
De morue.
Du véhicule et de ses occupants à la recherche d'un lieu de passage moins fréquenté.
Le désert des cerfs fait cruellement attendre.
Patience.
Et mère de tous les fils.
On remettra le couvert à couvert.
Tirant de cette situation bouffonne un proverbe
situation...
où la gêne le dit
pute
au fou rire.
Autant grotesque qu'incongru.
Un proverbe dont j'ai le sacré. J'ouvre ma portière en déclarant, en déclamant à celles qui m'accompagnent encore.
Ah oui, encore.
Qu'on nage en plein vaudeville et que.
La curiosité est un vilain fléau.
Refermant ce placard sur cette farce de boulevard.
C'était Rue Saint-Hernandaire sur un texte de Jules Vipaldo, dit par Olivier Domergue, Brigitte Palagi, Jean-Marc Pontier et Mathilde Pontier, tous membres du groupe Autre et Pareil. On aura l'occasion dans quelques secondes de rencontrer l'auteur de ce texte, du moins de le rencontrer par téléphone, puisqu'il ne vit pas dans la région.
Rechercher dans les pages de langue des résultats sur un total, chasser la routine, chasser sur le champ la seconde nature qui vous convient. Vous ne pouvez nier les citations contiennent les mots, des mots routiniers, choisissez le mieux. Et bonne chance et bonne chasse parmi la chiasse de mots tirés, vous effectuez recherche parmi petits morceaux de programme parfois étudiés pour la rapidité, parfois petits morceaux du champ particulièrement étudiés.
Bonjour Jules Vipaldo.
Bonjour Xavier Thomas.
Tu mènes un travail d'écriture en participant très activement à un collectif d'artistes que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission Indiscipline. C'est le collectif Autre et Pareil, qui gère par ailleurs une petite maison d'édition, les éditions Contre-Pied. Ouais. Dans cette maison d'édition, tu as fait paraître donc un certain nombre de textes. On a tout à l'heure, dans le cadre de cette émission, écouté d'ailleurs un de tes textes qui s'intitule « Rue Saint-Hermantaire ».
Ouais.
Et que nos amis ici ont eu le plaisir de donner un peu en forme de performance. D'autres textes aussi sont édités. Je voudrais peut-être que tu parles un petit peu du dernier sorti et qui est tout à fait d'actualité, qui s'intitule « Omnis Potens ».
Oui, bah ce dernier texte, donc c'est le dernier texte édité qui est paru effectivement chez Contre-Pied. C'est un texte un petit peu particulier, parce que c'est un texte d'humeur, c'est un texte de réaction, le texte a été rédigé il y a déjà 2 ans maintenant, mais par rapport à l'envahissement du nom de Sarkozy. On parle le nom de Sarkozy dans les discours aussi bien médiatiques que quotidiens. Il y avait une espèce de prolifération qui existe toujours, mais on s'y est un peu accoutumé, une espèce de prolifération de jeux de mots sur son nom, d'expression, hein, comme on parlait de la méthode Sarkozy, on ne sait pas trop ce que c'était, mais prolifération de néologisme. J'étais frappé aussi par l'utilisation de l'abréviation pour son nom, qui lui donnait comme ça une espèce de...
Sarko, c'est ça ?
Oui, oui.
Sarko comme un sarcome ?
Ouais.
Une espèce de petit cancer qui ronge ?
Alors, peut-être, oui. Alors, bon, moi, je me suis amusé avec ça, effectivement. Mais je suis parti de ça, parce que j'étais un peu agacé par cet envahissement. On en avait un peu plein la bouche, hein, et plein les oreilles. Et puis comme par ailleurs, bah, c'est vrai que moi je travaille beaucoup sur les détournements, sur les lieux communs, sur la langue de bois, etc. Bon, bah, je me suis un peu intéressé à ça.
Là, effectivement, c'est un travail sur la langue du candidat en question.
Oui,
on pourrait attendre
une
sorte de pamphlet. On en voit souvent. Et là, la forme que tu adoptes, c'est pas du tout une forme pamphlétaire. C'est vraiment une forme de jeu de mots et de jeu de langage extrêmement élaboré,
ouais.
D'ailleurs.
Je vous remercie de l'avoir remarqué, parce que effectivement, c'est pas un pamphlet. C'est pas même une satire, d'ailleurs. Hein. C'est pas un texte qui vise une personne. C'est un texte sur le langage, oui, sur la langue. Oui, tout à fait. Oui. Je suis pas très attiré par le genre satirique. Par contre, je suis davantage attiré par tout ce qui relève effectivement de la parodie, du calembour, du lapsus, tout ce qui permet, je dirais, de réaliser des possibles de la langue, hein, et d'engendrer, des possibilités, bon, par des homophonies plus ou moins approximatives, etc. Donc j'arrive sur la matière de la langue, et puis bon, ben voilà, et en même temps c'est une pochade, hein, il s'agit de rigoler avec ça, quoi. En fait, il s'agissait de, si vous voulez, de prendre à ce moment-là ce discours ambiant homo, hein, et de jouer avec cette manie linguistique, puis de l'exploiter jusqu'à l'absurde un petit peu, mais de manière joyeuse. Oui, mon travail est, comment dire, sous-tendu par une, ce que je pourrais appeler, c'est un peu pompeux, mais par une éthique du rire, hein, c'est-à-dire une manière d'affirmer, d'affirmer la vie, si vous voulez, à travers le rire, hein, à travers la singerie, en faisant l'idiot, le pitre, si vous voulez, oui, c'est ça. En me laissant un peu déborder aussi par.
C'est un peu l'idée de faire le pitre pour éviter le pire.
Oui, la logique du pitre.
La logique du pitre.
Je ne sais pas. Alors après, si vous voulez, c'est peut-être quelque chose de. J'aurais du mal à justifier ça. C'est un petit peu idiosyncrasique. C'est-à-dire quand je me mets à travailler, j'ai immédiatement. C'est un moteur. Enfin, j'ai besoin de viser le comique. Viser le comique, alors c'est peut-être aussi une manière de travailler contre moi-même, contre mes tendances qui sont au contraire plutôt neurasthéniques, règle générale. Donc effectivement, je trouve dans l'écriture une sorte de moteur vital. Ouais. Je pense qu'il y a une véritable thérapeutique du rire dont Rabelais fait grand cas, par exemple, alors sur un mode assez burlesque, mais dans la préface à ses livres, enfin, oui, tout à fait. Ouais. N'oblitère pas, par ailleurs, effectivement, un grand sérieux dans le travail lui-même, enfin, la mise en forme. Donc, c'est dans cette tension-là entre prendre son travail au sérieux pour pouvoir provoquer le rire, si vous voulez. Oui.
Tu l'expliquais tout à l'heure, le texte Omnis Potens dont nous avons parlé, ce texte un peu ironique autour de Nicolas Sarkozy est vieux déjà de quelques années. Mais est-ce que l'année 2007, qui se profile, année hautement électorale, te donnerait envie toi aussi d'entrer en campagne, peut-être pas comme candidat, mais en tout cas comme commentateur de cette espèce d'agitation médiatico-politique? Est-ce que c'est une manière de prendre parti pour toi? Est-ce que tu as envie de t'engager dans ce combat politique?
Non. Enfin, en tout cas, pas comme poète, si vous voulez. Non, je ne crois pas trop à ça, à l'engagement politique dans l'écriture, enfin, en ce qui me concerne. Hein. Alors, oui, bien entendu, enfin, je veux dire, ce texte, entre autres, n'est pas dénué d'une certaine partialité, enfin, c'est évident. Non, je souhaite pas forcément aller plus loin. Et puis parce qu'il y a pléthore aussi, hein, parce qu'il y a inflation de gloses autour de ce personnage, et que bon là pour le moment j'ai pas envie d'aller dans ce, enfin d'apporter une voix ou une pierre supplémentaire, enfin qui serait un petit peu inutile, quoi.
Vers quoi aurais-tu envie d'aller alors? Est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler ce sur quoi tu es en train de travailler et qu'on verra peut-être ou probablement dans le cadre des éditions Contre-Pied ou dans le cadre des productions d'autres et pareils?
Alors, oui, il y a plusieurs choses, effectivement. Alors, j'ai un texte là, mais qui pour le moment ne trouve pas d'éditeur, mais qui s'appelle Pauvre Baudelaire, et qui n'a rien à voir, moi, qui est une parodie de road movie en Belgique.
Et qui est Baudelaire qui détestait les Belges.
Comment?
Baudelaire qui détestait les Belges, qui a écrit un poème absolument terrible.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que, puisqu'il n'est absolument pas question de Baudelaire dans le texte, mais c'est simplement effectivement un signe vers son journal dans lequel il parlait de la Belgique. Alors moi c'est pas mon cas, j'ai absolument rien contre la Belgique. Hein, mais simplement je me suis amusé avec tous les lieux communs qui sont liés à la Belgique, avec certains poètes aussi belges. Donc il y a ça. Alors ça Bon, c'est un texte qui est assez long et qui pour le moment n'a pas trouvé d'éditeur. Et puis sinon, je travaille sur des... Là, j'ai un travail en préparation avec un ami qui devrait faire quelques illustrations. Alors là, ce sont des textes qui relèvent davantage du jeu, hein, de la contrainte littéraire. C'est ce que j'appelle des incipitres. Donc, ce sont des détournements d'incipites de romans célèbres. Et donc, y a un texte qui devrait sortir qui s'appelle Mais Marcel, qui est un hommage à Proust. Alors, un hommage déconnant, mais qui est un hommage à Proust, un hommage révérencieux quand même. Voilà.
On écoutait Jules Vipaldo, membre du collectif Autres et Pareils. On les retrouve d'ailleurs dans quelques secondes, ces Autres et Pareils, le temps d'une nouvelle routine de Nicolas Tardy.
Lessiver. Lessiver par lessivage, lessiver les différents âges, les six âges comme six faces d'un dé par une main lancée, même à la main, lessiver ou à la machine, lessiver, soyez sage comme un page, traversez d'une seule nage toutes les pages, après seulement après vous serez lessivé.
J'aimerais qu'on s'intéresse à un autre aspect des productions d'autres et pareils. C'est un aspect lié à l'image, cette fois-ci, non pas au dessin, comme on l'a vu avec Jean-Marc Pontier et la bande dessinée, mais à l'image photographique, au travers notamment d'une expo que Brigitte Palladji propose très bientôt à l'Espace Culture. Brigitte, bonjour.
Bonjour. Oui, effectivement, l'exposition qui s'appelle « De chaises et d'autres » aura lieu à partir du 6 février jusqu'au 19 février à l'Espace Culture à Marseille. Et j'ai la chance, pour le soir du vernissage, à 18h30, d'avoir également Véronique Vassiliou qui nous accompagnera pour une lecture.
Véronique Vassiliou, on rappelle, est auteure, poète. Elle a déjà d'ailleurs eu le plaisir de venir dans cette émission Indiscipline. C'était il y a quelque temps déjà. Peut-être pourquoi avoir choisi cet objet extraordinaire qu'est la chaise? Est-ce que c'est un hommage à Kossuth? Est-ce que c'est une fascination particulière à l'art contemporain, comme ça, pour cet objet qu'est la chaise? Pour quelle raison?
Non, la chaise, comme des tas d'autres objets que je piste, que je traque, fait partie en fait de mes séries. Je travaille énormément, on va dire à 80% du temps, sur plusieurs séries que je constitue sur de longues années. Ça peut aller de 20 années comme de quelques mois. Donc j'ai des petites cases comme ça dans ma tête qui sont pour des chaises, des étendages, des portraits d'enfants, des portes, des boîtes de sardines. Et sur cette série des chaises, notamment, là, c'est une série qui fonctionne sur une vingtaine d'années, où je me balade toujours avec mon petit appareil photo, aussi bien dans des villes, des pays. Et puis, ce jour-là, l'esprit est disponible, disposé à retrouver cet élément insolite, mais qui fait partie, pour moi, du quotidien. Donc, c'est la chaise un peu dans tous ses états.
La chaise vide, la chaise occupée?
La chaise est toujours vide, du moins il n'y a pas d'être humain dessus, mais elle raconte déjà l'histoire des humains, de notre quotidien. De toute façon, elle est traquée dans son quotidien et le quotidien, c'est nous-mêmes.
Dans l'exposition que tu vas nous présenter bientôt à l'Espace Culture, cette exposition sera suivie d'une lecture de Véronique Vassiliou, tu l'annonçais. Comment est-ce que tu as rencontré Véronique Vassiliou?
En fait, Véronique est devenue une amie à la longue parce qu'elle a très rapidement été invité avec autres épareils. Et du coup, bien sûr, il était normal de lire ses livres, de voir des correspondances avec le travail que je faisais photographique. Et du coup, elle a bien voulu participer à ce vernissage en essayant de trouver des textes qui se rapporteront ou qui, du moins, feront un petit clin d'œil au travail sur les chaises.
Je précise que...
Olivier Lomerc.
J'interviens comme ça, pour dire que c'est aussi un des auteurs des éditions Contre-Pied, Véronique Vassiliou, d'où le lien, elle a publié deux livres chez nous, dont le dernier en date s'appelle « Une petite nappe verdâtre mal découpée et attrait à la Sainte-Victoire vue depuis mi-mai ». Voilà.
Petit extrait du plus et la moins de la gravité qui fera le lien, je crois. Voilà. Correspondance d'Angèle Calia avec dossier numéro 11, ministère de l'Intérieur, REF 2004-11-MK, du mercredi 4 février 2004 au dimanche 15 février 2004. Note de l'éditeur. Pour des raisons inconnues, Manolo Zanca n'a pas archivé les messages de la correspondante d'Angèle Calia. L'objet... Big Bang. La date, mercredi 4 février 2004, 21h. De Angèle Calia à... Cher, vous m'aviez tout expliqué du Big Bang. Voulez-vous que notre conversation reprenne? Où en étions-nous déjà? Physiciennement votre, Angèle. L'objet, des lumières. La date, jeudi 5 février 2004, 21h. Cher, votre conception de la gravité m'échappe. J'aimerais savoir quel est le trajet de votre course. Glissez-vous de manière linéaire ou bien dérivez-vous doucement? Je suis physicienne et à ce titre, je comprends l'univers par ses phénomènes les plus intimes. Je suis à l'image de mon ami Newton face à sa pomme. Je comprends le cheminement de la décision en observant les effets du courant sur la roue du moulin ou en sentant le souffle du vent sur mon visage. C'est ainsi. L'abstraction, pour moi, débute dans la matière. C'est pour cette raison que votre explication du Big Bang continue de m'occuper l'esprit. Vous avez des doutes et vous n'avez aucune certitude, je le conçois. Mais ne vous faites pas obscur alors que votre conversation était lumineuse, Angèle. L'objet, où en suis-je? Date, vendredi 6 février 2004, 21h. Cher, dois-je vous dire combien j'avais hâte de reprendre cette conversation? Mon métier me happe tout entière parfois et je disparais corps et cerveau dans la gravité. Souvent, je me laisse à ce point entraîner par une hypothétique compréhension de cette tension, entre son plus et son moins, que j'en oublie d'être. Newton et moi, avec toute l'amitié que je lui porte, avons un discours discordant. L'infime me fait parfois perdre pied dans la réalité. Et je me demande alors... si je ne suis pas à l'injonction de Jeff Koons, vous connaissez, n'est-ce pas? Prenons nos désirs pour la réalité. Alors les doutes qui conduisent ma recherche rejaillissent sur moi. Suivant des forces que je m'efforce de comprendre, mais qui ne cessent de m'échapper, votre gravitationnelle Angèle. L'objet, droit au but, la date, samedi 7 février 2004, 21h. Cher, le doute est un leurre qui cache les certitudes. Le doute est question et toujours question. Le saviez-vous? Je suis ailleurs, dans un tournoiement, la légèreté d'une rose. Je reste en surface parce que j'aime l'être plus que tout. J'aime voir le fond, en transparence. J'aime voir mon reflet, dans la surface. J'aime que le flottement existe. Je n'aime pas quand il y a beaucoup de bruit. Je viens d'inventer, bien entendu. Les physiciens sont comme les artistes et les poètes. Ils peuvent se perdre. Et peu m'importe finalement la vérité scientifique, même si elle n'est que doute. Angèle.
C'était Véronique Vassiliou, un extrait de « Le plus et le moins de la gravité », une lecture publique à l'Espace Culture sur la Canebière à l'occasion du vernissage de l'exposition de Brigitte Palladji. Tout de suite, on retrouve Olivier Domergue et le collectif Autre et Pareil dans Indiscipline. Puisqu'on parle d'édition, on va peut-être rester sur ce sujet encore quelques instants avant de se quitter. Il est bien difficile aujourd'hui pour un éditeur d'arriver à rendre sa production pérenne. Comment est-ce que vous arrivez? Tu évoquais, Olivier, les moyens assez limités dont vous disposiez. Comment est-ce que vous parvenez à financer le projet?
Alors, le projet s'est financé essentiellement sur la volonté et les dons de nos adhérents, que je l'ai dit tout à l'heure, pendant une dizaine d'années. Et puis, depuis 5 ans, nous sommes subventionnés par la ville de Martigues, un petit peu, et puis par d'autres, évidemment, DRAC, évidemment, Région, évidemment, CG13. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des adhérents sont abonnés aux éditions Contre-Pied, et donc reçoivent toutes les publications, les 3 livres par an, mais également les numéros de revues. Donc on tient aussi parce que ce travail, qui vise à faire connaître d'ailleurs des auteurs qui n'étaient pas forcément connus au départ, le but pour nous, c'était tout de suite de mettre à disposition et de faire circuler des textes de littérature contemporaine, qui est une littérature qui n'est pas évidente, évidemment, à faire connaître. Donc, de les faire circuler, de doubler ça également de lecture publique. Et puis également, de travailler sur un service de presse très particulier. Donc, chaque livre est envoyé à des grands lecteurs, directeurs de revues, éditeurs et autres, ce qui permet évidemment de donner une visibilité à un texte et à un auteur. Donc, ça a été le cas de certains auteurs cités. On parlait d'Emmanuel Bayamaktam, Jean-Marc m'a bien relancé là-dessus et il a eu raison parce que c'est un des membres fondateurs de l'association et puis c'est quelqu'un qu'on a fait connaître et qui a publié chez nous avant de publier par exemple aux éditions BOL. Bon. On pourrait aussi citer le cas de Nicolas Tardy qui a publié ses tout premiers textes chez nous avant d'être publié par exemple aux éditions de l'Attente.
Nathalie Quintane aussi.
Oui, Nathalie Quintane, mais aussi Michel Crozatier, mais aussi Jean-Marc Bayeux, enfin d'autres qui...
Olivier Domergue aussi.
Oui, mais alors ça...
Pierre Parlant, qui n'a pas encore parlé de lui.
Oui, Pierre Parlant, tout à fait.
Pour de nombreux éditeurs aujourd'hui, et dans cette difficulté et dans la relative cherté d'arriver à produire une revue papier, une solution peut souvent être envisagée sous forme multimédia et notamment sur Internet. Est-ce que Autre et Pareil est doté d'un site et qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Oui, alors d'abord dire aussi peut-être pour clôturer la discussion autour de l'édition, c'est que nous sommes micro-éditeurs. Hein, donc, nous ne sommes pas les éditions compactes ou d'autres éditions de poésie qui ont quand même une ampleur un peu plus importante et qui donc ont un diffuseur, distributeur. Nous, on travaille vraiment sur des petites plaquettes ou de 36 pages maximum qui sont reprographiées et donc on diffuse de cette manière-là à la fois sur des abonnements et puis également dans les nombreuses manifestations qu'on organise. Alors évidemment, on a depuis un an, 2005, on a voulu donner, et notamment sous l'impulsion de Jean-Marc Pontier ici présent, un site à cette association. Donc c'est Autres et Pareil. Alors c'est http://, parce qu'il va me reprendre sinon.
www.
Non, il n'y a même pas ça. Non, c'est sur Free. Donc c'est autresetpareil.free.fr. Et là, donc dans ce site, ce qui est la vitrine de l'association, on retrouve à la fois toute l'activité et évidemment l'actualité, hein, qui c'est à peu près 25 à 30 interventions par an, Autres et Pareil, tout confondu. Et toutes les rubriques qu'on a évoquées, c'est-à-dire les expositions, les artistes évidemment, qui sont nombreux, et les parties éditoriales, BD, donc une édition Iconophage, il y a une entrée évidemment dessus, les éditions Contre-Pied, etc. Et puis on est aussi, On accueille aussi des initiatives de certains de nos artistes et auteurs, type Jean-Marc Bayeux, etc. Et souvent, on héberge des parties revues ou éditoriales sur le net. C'est le cas de Sur le Vif, par exemple, de Jean-Marc Bayeux pour cette année. Et on fait aussi des liens avec des grandes revues qui nous sont chères, avec qui on travaille depuis longtemps, comme New York et d'autres.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres structures un peu comparables aux vôtres? Est-ce que vous avez envie de créer une espèce de réseau alternatif?
Alors, c'est un réseau de fait par l'habitude qu'on a de faire des choses ensemble depuis de longues années. Donc, New York, c'est donc situé, c'est Jean-Marie Glaise et Patrick Sainton et des gens qui gravitent autour de d'eux. Donc, nous, on les a rencontrés depuis de longues années. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux. Donc, forcément, il y a des liens. Il y a des liens aussi avec des petits éditeurs avec lesquels on travaille. Donc, je citais tout à l'heure Le Bleu du Ciel, mais on pourrait citer les éditions de l'Attente. Mmh. Oui. Donc, qui sont des Bordelais. Il y a un axe Bordeaux-Marseille assez développé. Il y a un axe aussi Nice-Marseille qu'on essaye de mettre en place, notamment avec la Villa Arson et avec d'autres. Donc, la station.
Et peut-être rajouter Jean-Marc. En ce qui concerne alors, le côté plus littoral, avec notamment Alstir sur le Var, sur Toulon, ou le réseau Lalande sur le 06. Bon, effectivement, il y a beaucoup de... Ça se fait naturellement, quoi.
Comme de donner le numéro de téléphone où on peut vous joindre si on a envie de vous contacter, de vous proposer quelque chose, Olivier.
Alors, c'est le 04 42 42 09 55.
On arrive maintenant au terme de cette émission. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui y ont participé. Olivier Domergue, Brigitte Palagine, Jean-Marc Pontier, Jules Vipaldo, Nicolas Tardy et Véronique Vassiliou. Le temps de vous rappeler que Nicolas Tardy, dont vous avez entendu quelques routines, fait paraître l'édite routine aux éditions de L'Attente et vous recommande aussi la visite du site www.larevuex.com. toutattaché.com. Véronique Vassiliou, de son côté, vient de faire publier Le coefficient d'échec aux éditions Compact et vous pouvez trouver plus d'informations sur cette publication sur www.éditionscompact.com et je vous le rappelle une dernière fois, le site internet d'autres et pareils sur lequel vous trouverez toutes les informations sur les productions de ce collectif pluridisciplinaire, eh bien c'est autreetpareil.free.fr. Merci à tous de votre attention. On se retrouve dans un mois. Je vous le rappelle, Indiscipline, c'est le deuxième samedi de chaque mois à 10h. D'ici là, bonne écoute sur La Grenouille.
Mesdames, messieurs,
l'histoire.
Et après
537 représentations.
La vie est romance.